We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Très chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur We do biz pour les rendez-vous du recrutement. Ici Sandrine Chauvin, responsable de la rubrique carrière du site capital.fr. Cette semaine, on va parler gestion des ressources humaines dans une petite entreprise. Vaste sujet, vous allez me dire. En fait, il s'agit de savoir comment fidéliser ses meilleurs collaborateurs dans une PME. Difficile en effet d'augmenter les rémunérations. Donc, quels sont les atouts séduction que l'on peut trouver? Pour nous répondre, un fidèle de cette émission, Alain Bozetti, bonjour.
Bonjour Sandrine.
Vous organisez depuis 12 ans le Salon des micro-entreprises. Pour réussir cet événement qui revient tous les ans, vous misez beaucoup sur la fidélité de vos salariés. Pourquoi? Comment faites-vous?
Alors, enfin, c'est que ce soit pour le salon des micro-entreprises ou les sites que nous avons ou l'agence de communication, moi j'ai une philosophie de travailler dans la durée. Je pense que pour nos clients apprécient avoir un interlocuteur qui les comprend et qui les connaît. Donc, il y a d'ailleurs des études qui montrent que la profitabilité d'une entreprise est liée à la fidélité de ses collaborateurs. Donc, il n'y a pas de recette en fait. Ça commence par un équilibre dans la durée entre ce que le collaborateur va apporter à l'entreprise, l'entreprise va lui apporter. Un collaborateur ne cherche pas forcément le salaire le plus élevé. Ça s'appelle un mercenaire sinon. Et donc, on peut avoir besoin d'un mercenaire ponctuellement, mais un mercenaire, par définition, ça ne se fidélise pas. Donc, moi, je n'ai jamais attiré un collaborateur par le salaire.
Donc, quelles sont les alternatives?
En fait, c'est un package. Le package, c'est pourquoi, quelle est la mission de cette boîte et est-ce que j'ai envie d'y contribuer? Lorsqu'on travaille pour le salon des micro-entreprises, on a envie de contribuer à aider des petites boîtes à se développer ou à se créer. Lorsque l'on travaille pour le site Place des Réseaux Planète Auto-Entrepreneur, c'est contribuer à donner du contenu à ces entrepreneurs pour grandir également. Donc, si vous voulez, il y a une mission qui est beaucoup plus grande que simplement d'autres jobs à côté. Donc, à quoi vais-je contribuer? Est-ce que je vais progresser? Est-ce que je vais apprendre? Est-ce que je vais être pris en compte? Est-ce que je vais être respecté par mon patron, par mes collègues, donc l'ambiance de travail? Et puis après, ai-je une juste rémunération par rapport à ce que j'apporte? Et si je fais des efforts au-delà de la norme, est-ce que je vais également être récompensé financièrement? Donc, sur tous ces éléments-là, la mission pour laquelle je vais me bagarrer, pour laquelle l'entreprise intervient, le progresser, la formation. Trop de petites boîtes n'investissent pas assez en formation. Il faut, bien sûr, on a des budgets, mais également, il ne faut jamais hésiter à investir, enfin, progresser ses collaborateurs.
Vous, par exemple, vous investissez quelle part de la masse salariale dans la formation?
Je ne sais pas, mais c'est 2-3 fois le montant légal. En 2010, j'ai dû dépenser 2 ou 3 fois le montant légal et peu importe parce que le retour sur investissement est sans commune mesure. Et la formation, c'est pas seulement des formations dispensées achetées à l'extérieur, ça bien sûr, mais c'est également des formations dispensées par des collaborateurs dans l'entreprise ou par le patron d'entreprise lui-même. Donc, quoi qu'on fasse, qu'on soit carrossier, charcutier, architecte, agence de com, etc., les dirigeants, les managers, les collègues ont à apporter. Et puis en plus, on est dans un monde de plus en plus collaboratif, coopération. Un collaborateur peut former son patron et ses collègues. Donc la formation, ça, le progrès passe par la formation, mais la formation globale, c'est-à-dire collective et individuelle.
Et sur la mission du salarié, comment faire pour qu'il ne s'use pas, qu'il arrive à changer? Est-ce que vous le changez de mission? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ses besoins, lui, quand il a besoin de se rafraîchir un peu?
Nous avons mis en place un processus d'entretien annuel d'évaluation qui permet de faire le point sur l'année écoulée et puis de voir les pistes de progrès et les objectifs de l'année à venir. Mais vous savez, on est une petite trentaine, donc on se connaît tous, on se voit tous les jours. On n'est pas dans un groupe de 150 000 personnes où on voit jamais le patron. Donc il y a ça, on va pas se réfugier derrière un entretien annuel. L'entretien annuel, c'est un moment important dans l'année, mais également c'est au quotidien.
Donc ça veut dire que le patron, faut qu'il soit proche de ses équipes, à l'écoute, et qu'il fixe une espèce de grand rendez-vous dans l'année où on prend le temps de s'asseoir et on discute vraiment des besoins du salarié. Et ça, c'est l'entretien annuel d'évaluation.
Ça, c'est l'entretien annuel, mais après, au quotidien, parce que là, ça bouge, un salarié peut être sollicité, peut avoir des problèmes, je peux être maladroit avec un collaborateur, enfin, voilà. Il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges. La première chose que je dis à un collaborateur lorsqu'il rentre dans l'entreprise, c'est liberté de parole. Il n'y a rien de pire que quelque chose qu'on va garder en soi et qui va après faire une boule et ça va faire un gros pataquès. Donc, je dis, on peut être je peux mal m'exprimer ou mes associés peuvent mal s'exprimer, on peut être maladroit, dis-le-nous. Et la formulation, c'est ce que tu m'as dit m'a blessé. C'est pas il faut pas dire à quelqu'un, évidemment, que ce soit dans les deux sens. Tu as fait ceci. C'est voilà comment j'ai ressenti ce que tu as fait ou ce que tu as dit. En parler, ça libère les nœuds.
Finalement, ça c'est assez loin du management un peu patriarcal de l'entreprise avec le côté bon père de famille.
Moi j'ai eu la chance de bosser les 15 premières années de ma vie dans des grands groupes américains et japonais. Quand en 1996 avec mes associés, on a décidé de créer d'abord l'agence en personne puis les salons. Notre idéal, c'est de dire on va prendre le meilleur des deux mondes. On va prendre le meilleur des séances d'un grand groupe et le meilleur des séances c'est-à-dire l'organisation, c'est-à-dire la prévision, l'anticipation, les process, mais pas les lourdeurs, pas les emmerdes, pas la politique. Et puis prendre au PME la flexibilité. Et ça, c'est notre projet d'entreprise. Et on l'a écrit en 1996 quand on a créé notre première activité qui existe toujours. Et puis c'est ce qu'on essaie d'animer au quotidien.
Et à partir de quand il faut formaliser les fameux entretiens annuels d'évaluation dont vous parlez?
Je pense dès le premier salarié. C'est pas. En fait, je crois que faire un point au quotidien, c'est important pour éviter les dérives. Faire un point. L'avantage du point formel, c'est que ça va donner une base. Ça va donner de faire un point zéro ou un point un auquel on va pouvoir se référer dans le temps.
Et vous avez aussi évoqué l'ambiance de travail qui est importante avec le dialogue. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de rendre l'ambiance de travail plus agréable? Je pense notamment au télétravail, aux horaires flexibles. Je crois qu'aussi que dans votre entreprise, vous avez mis en place le Birthday Off. Vous pouvez
Pour commencer par ça, le Birthday Off, c'est une idée qui m'était donnée il y a au moins 10 ou 15 ans de ça par mon copain Philippe Bloch, qui a créé Columbus Café. Et le Birthday Off, c'est très simple, c'est on ne travaille pas le jour de son anniversaire. Donc si votre anniversaire tombe un dimanche, voilà, c'est comme ça. Mais si tombe en semaine, on vous donne un jour de congé offert par l'entreprise. Ensuite, nous équipons la plupart de nos collaborateurs ont des ordinateurs portables et des connexions Internet. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a des grandes grèves ou des problèmes, ou si quelqu'un est un peu patraque, il peut très bien travailler de chez lui et puis se connecter à distance. Tout ça repose sur la confiance. Si vous faites confiance à vos collaborateurs et que les collaborateurs vous font confiance, il n'y a pas de pointeuse, vous voyez, on va pas fliquer les horaires. Donc c'est une question de confiance. Lorsqu'il n'y a pas la confiance, là c'est plus compliqué. Et ça ne se décrète pas, la confiance.
Et combien de temps vos salariés restent à peu près chez vous? Est-ce qu'il y en a qui sont là depuis l'origine et qui comptent bien encore rester?
Non, mais il y en a qui sont là depuis notre directeur de studio, Alain, il est là depuis 1999. Valérie, dans les managers, par exemple, ils sont là depuis 10 ans, 7 ans, 8 ans.
Et ça, comment vous l'expliquez? Cette fidélité?
Par ce que je disais tout à l'heure, d'abord par de l'authenticité, une mission vue de la même manière par tous. Et puis, je pense qu'un collaborateur, il attend de son patron deux choses. Il attend de son patron qu'il soit hyper pro. Parce que quand un patron est pro, il va donner un cadre de travail, il va donner des moyens, une formation et puis une vision. Et puis, il attend d'être à quelqu'un qui soit chaleureux également. Donc, je crois que le bon mix des deux, c'est un hyper-professionnalisme. Je ne dis pas que je suis hyper pro. J'essaie de tendre vers ça et j'essaie de faire. Mais c'est vachement dur, mais c'est exigeant. Mais si on n'est pas exigeant avec soi, on ne peut pas l'être avec les autres. D'accord? Et puis, après, de la chaleur humaine, du respect de l'autre, des valeurs de base qu'on oublie.
La chaleur humaine, c'est quoi? Parce que j'imagine que ça varie d'un individu à un autre.
Bien sûr, simplement se préoccuper des collaborateurs. Moi, quand je vois quelqu'un qui n'est pas bien, je vais essayer de savoir.
Donc, ça veut dire que vous les connaissez tous par leur prénom, par exemple?
Oui, on se tutoie, bien sûr.
Tutoyez, vous prenez le café, vous allez déjeuner avec eux de temps en temps.
Disons, on est une trentaine. Donc, si je ne connaissais pas tout le monde, il y en a avec lesquels je collabore plus que d'autres au quotidien, bien sûr. Dans toutes les petites boîtes, les gens se connaissent et se côtoient, ils sont à quelques mètres les uns des autres.
Et le salaire, est-ce que c'est une variable d'ajustement intéressante pour fidéliser ses salariés ou pas?
L'objectif pour garder les meilleurs éléments, c'est de leur donner le package global le plus attractif possible. Donc la mission de la boîte, ce que eux vont faire et en quoi ils vont contribuer, la formation, le progrès et le salaire. On a mis en place, mais depuis maintenant 10 ans, un contrat d'intéressement. Donc le contrat d'intéressement, les collaborateurs ont 2 mois de salaire qui vont tomber si l'objectif de l'entreprise est atteint. D'accord. Donc il y a un objectif financier en plus d'objectifs pour l'entreprise. Et c'est un objectif collectif. Et
c'est savoir aussi les récompenser, hein, si j'entends.
Bien sûr. C'est un séminaire annuel de 3 jours où on va partir. On va partir au Mont-Saint-Michel sur la Côte d'Azur ou peu importe où. Et puis pendant 3 jours, on va faire des activités de team building. Là, le dernier qu'on a fait, c'était pas loin de Marseille. On a fait de la descente en rappel, randonnée, enfin visite d'entreprise. Mais ce sont des moments de partage et qui permettent justement de découvrir des facettes et des talents cachés de vos collaborateurs. Et eux-mêmes peuvent vous découvrir à ce moment-là.
Et ça, vous avez un retour sur investissement? Vous avez un exemple, par exemple, à donner?
Je sais pas. Je ne suis pas dans une... Enfin, je ne mesure pas ça. C'est-à-dire que je me dis pas, je ne suis pas DRH d'un groupe de 100 000 personnes, et je me dis, j'investis ça et j'aime. Bon. À l'échelle d'une petite entreprise, l'investissement, il est de quelques milliers d'euros. Donc, c'est des sous. Mais quand je vois les gens qui reviennent au séminaire, qui sont heureux, qui passent un bon moment et qui gagnent en solidarité, voilà. Donc, intuitivement, je pense que c'est rentable. Maintenant, j'ai pas, à notre échelle, j'ai pas mis en place d'outils d'analyse de retour d'investissement.
Et qu'est-ce que disent vos salariés de votre technique de management?
Il faut leur demander ça.
D'accord.
Non, mais après, ce que j'ai comme facteur, par exemple, le nombre de jours d'arrêt maladie. D'accord. Qu'est-ce que je suis comme indicateur? C'est les arrêts maladie et la fidélité. L'arrêt maladie, on est en dessous de la norme en France, que je connais pas par cœur d'ailleurs, mais c'est très ciblé. C'est-à-dire que clairement, quand je regarde ce qui se passe, globalement, vous avez des arrêts maladie qui peuvent être ponctuels sur certains collaborateurs et récurrents sur d'autres. Donc quand ça devient récurrent, là, il faut regarder un peu plus près ce qui se passe.
Donc vous allez l'interroger et faire preuve d'écoute et chaleur humaine, si.
Oui, enfin c'est après ou pas, parce que si vous voulez, il y a des collaborateurs qui tirent sur la corde également.
Faut savoir sanctionner, c'est ça que vous voulez dire?
Je dis pas faut savoir sanctionner, faut être très glo. Moi, je déteste les personnes en général qui profitent du système, d'accord. Et forcément, dans une entreprise, dans la mienne ou dans ceux que j'ai pu avoir, il y a des gens qui sont comme ça. Voilà. Donc après, faut le savoir, mais c'est pas mon collaborateur préféré, ça.
Alors Alain, quel est le petit plus qui fait rester vos salariés finalement?
Je pense que c'est un esprit start-up, même si on existe depuis 15 ans, c'est notre 15e année aujourd'hui. Et puis j'essaie de partager avec eux du progrès.
Partager du progrès.
Vous savez, vous connaissez cette formule de la SNCF, hein, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Moi, j'ai, en fait, dans une petite boîte ou dans une grande, vous avez 3 catégories de personnes. Vous avez les clients, vous avez les collaborateurs et les actionnaires. Donc, les actionnaires, c'est mes associés et moi, donc ça, c'est facile. Et puis, nous, on est capable, on n'a pas de rentabilité à délivrer impérativement. On n'a pas d'actionnaire qui nous exige ça de nous. Donc, si à un moment donné, une année ou 2 années, il faut dégrader la rentabilité pour permettre justement d'investir sur un projet ou sur des gens, on le fait, on se concerte entre actionnaires et puis on le fait entre associés.
L'avantage des petites boîtes.
Exactement.
Maintenant, Alain, je vais vous proposer le petit jeu, hein, qu'on a habituellement, auquel vous êtes maintenant habitué. Trouver une petite phrase ou un dicton qui résume bien cette philosophie assez humaniste. Hein.
Alors, je vous dirais, on est plus grand dans une petite entreprise.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que un collaborateur dans une grosse boîte, ça va être un numéro. Il va avoir un projet dans un bureau, puis il va passer 30% de son temps à faire la politique pour avoir augmenté son viser tel bureau, telle responsabilité, etc. Dans une petite boîte, il est forcément plus grand. Il a forcément des ailes qui peuvent pousser. Et donc la responsabilité du chef d'entreprise, c'est de laisser grandir, de laisser pousser les ailes de ses collaborateurs. Mais je pense dans un cadre également, hein, le meilleur des deux mondes. Prendre ce qu'il y a de bien dans les grosses boîtes, enlever, c'est-à-dire l'organisation, la vision, le travail processé, et puis la flexibilité des petites.
Alain, merci pour cette bonne dose d'optimisme.
Merci Sandrine.
Et quant à moi, je vous retrouve pour un prochain rendez-vous du recrutement, le lundi à 11h20 sur WeDoBiz.